Si vous le permettez, on va se courber ensemble dans un mot de prière. Père éternel, je veux te remercier pour cette matinée, te remercier pour ces beaux témoignages, Seigneur, qu'on a entendus. Père, on est assemblés ici pour célébrer les rencontres, Seigneur, que tu as fait avec des gens qui t'ont reçu dans leur vie, qui en sont venus à connaître personnellement, intimement Jésus-Christ, à saisir ce qu'il est venu accomplir dans ce monde. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour ces beaux témoignages. J'ai hâte de voir ces gens tantôt passer par les eaux du baptême, Seigneur, et d'une certaine manière, célébrer leur union avec toi. Je te prie de venir bénir ces quelques moments qu'on va passer ensemble dans ta parole et de venir, Seigneur, nous instruire par ta parole. Ta parole, Seigneur, c'est toi qui l'as inspirée par ton esprit. Elle nous parle de toi, elle nous parle de cette union que tu veux vivre avec nous. Alors, je te demande d'être avec ma bouche, d'être avec mes lèvres, Seigneur, et que tout ce qui est enseigné ce matin, tout ce qui est dit ici, soit conforme à ta révélation, Seigneur. Nous parle de toi comme tu es. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Amen. Les baptêmes auxquels on va assister dans quelques minutes, c'est une tradition chrétienne, d'accord? C'est une vieille tradition, plus de 2000 ans, qui remonte à l'origine du christianisme, en fait le fondateur du christianisme, Jésus-Christ, d'accord? Lui-même s'est fait baptiser au début de son ministère par Jean-Baptiste, et donc c'est une vieille tradition. Le sens propre du terme lui-même est relativement simple. Le mot en français « baptême » est une... c'est pas « baptins », c'est une translittération, d'accord? Ça vient du grec « baptizo ». Et tout simplement, on l'a transformé, on l'a francisé pour que ça sonne bien en français. Et « baptizo », ce que ça veut dire, c'est « immerger », « immersion », « plonger ». Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, les gens vont venir ici et ils vont plonger dans l'eau. On va les plonger dans l'eau, d'accord? On va voir ensemble, dans quelques minutes, ce que ça représente, la symbolique qu'il y a derrière ça. Mais simplement, c'est ça que ça veut dire. Ça parle d'être immergé, d'être plongé. Et c'est une pratique, c'est une tradition qui est super importante. Le symbole principal qu'on trouve à travers le baptême est là pour représenter l'union entre quelqu'un qui place sa foi en Jésus-Christ, une union spirituelle avec Jésus-Christ, d'accord? Un petit peu de la même manière qu'un mariage est là pour illustrer, pour confirmer un engagement entre un homme et une femme. Alors le baptême, on pourrait dire, ressemble à un mariage chrétien. Il représente ce moment, cette union spirituelle entre celui qui place sa foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même. Et un petit peu de la même manière que dans un mariage, on va chercher plus que simplement faire ménage ensemble. Il y a un verset au début du livre de la Genèse, au début de la Bible, qui va comme ceci, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Ça dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et il y a une idée dans cette union-là où ils deviennent une seule chair qui dépasse l'intimité sexuelle ou le fait d'acheter une maison ensemble. Lorsqu'un homme et une femme se marient, c'est pour construire une histoire nouvelle ensemble. Ils sont en train de s'unir et dans une vision du monde chrétien, une vision chrétienne du monde, ils s'unissent ensemble pour la vie. Et donc, ils sont en train de quitter quelque chose pour aller ensemble bâtir une nouvelle histoire. Ils vont écrire de nouveaux chapitres de leur vie, mais qui vont raconter maintenant une histoire commune, une union. Et donc sans aller jusqu'à dire que ces deux personnes-là n'existent plus comme individus, ils gardent chacun leur personnalité. En même temps, au fur et à mesure des années, c'est comme s'il y a une troisième personne qui naît, qui est leur couple, qui est leur histoire à eux. Et souvent, on les voit à travers les années. Personnellement, ça fait 20 ans que je suis marié. Vous allez croiser un couple qui est comme ça ensemble depuis des années, puis vous allez dire, ils se ressemblent comme s'ils étaient des frères et sœurs. Pourtant, physiquement, il n'y a rien de changé. Mais on avance ensemble, on est des amis, on partage ensemble, on pleure, on rit, on partage des difficultés, des épreuves, des bénédictions, des joies, et on construit ensemble, et on a notre histoire commune à nous. C'est un petit peu de la même manière ce qui se passe lorsqu'un chrétien va s'unir à Jésus-Christ. C'est comme s'il entrait dans un mariage avec lui. Et donc, le baptême chrétien, ce à quoi on va assister tout à l'heure, est un symbole biblique extrêmement riche qui parle de l'union du chrétien avec Jésus-Christ. Et il y a deux facettes principalement à cette union-là. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure au début du service, bien cette semaine, cette fois-ci c'est spécial, on a des baptêmes cette semaine puis la semaine prochaine. Alors, je peux me permettre de traiter les deux volets de cette union en deux semaines, d'accord? Alors, les deux volets de cette union, premièrement, il y a l'identification du croyant avec la mort de Jésus-Christ. C'est ça que je vais expliquer un peu plus ce matin. Et deuxièmement, il y a l'union du croyant avec la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, vous pouvez déjà imaginer la symbolique de cette immersion et lorsque la personne ressort, association avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, d'accord? Cette semaine, on va parler premièrement de mon identification dans la mort de Christ sur la croix. Et la semaine prochaine, on va parler de cette vie nouvelle qui vient lorsque je place ma foi en Jésus-Christ. Deux aspect d'une même union. Maintenant, ce que j'étais en train de penser à tout ça, puis à ce que je voulais vous partager ce matin, je me suis dit, OK, si on parle d'union spirituelle et que je vois un parallèle avec l'union entre un homme et une femme, il faut que je parle d'union pour commencer. D'accord? Fait que, oublions le baptême un instant, oublions même l'union avec Christ, l'union spirituelle d'un chrétien, parlons juste d'union en général. Parce que dans notre société, à notre époque, il semble quand même que c'est un problème, cette histoire-là. Il semble qu'on ait peur de s'unir, de s'engager dans des relations. Et il y avait définitivement un parallèle avec la foi, avec la spiritualité. Mais dans notre société, à notre époque aujourd'hui, il semble que c'est tout un challenge d'aller et d'oser s'engager dans une union, dans une relation. Ça n'a pas toujours été comme ça. V'là 100 ans, v'là 50 ans, au Québec, partout en Occident, les gens s'engageaient un envers l'autre. Ça veut dire qu'ils étaient fous. Ils le faisaient, ils s'engageaient l'un envers l'autre. Puis aujourd'hui, on a peur de ça. Et c'est vrai partout, d'accord? Dans une vision chrétienne du monde, on s'engage dans le mariage. Alors notre vision à nous, c'est on s'engage pour la vie. Ça fait encore plus peur, cette histoire-là. De quoi on a peur? De quoi on a peur? Qu'est-ce qui nous fait peur, qui nous empêche de s'engager comme ça ou qui fait qu'on a tellement de crainte à s'engager l'un envers l'autre? Différentes choses, je pense. J'ai essayé d'en identifier quelques-unes. Je pense qu'on a peur, souvent, de perdre notre liberté. On ne veut pas s'engager dans une union parce qu'on a peur de perdre notre liberté dans cette union-là. Peut-être aussi qu'on a peur de se perdre soi-même dans cette union. On a peur à quelque part, puis tantôt j'avais de quoi vous faire peur dans ce que j'ai dit, on a peur de disparaître dans cette relation-là et de perdre notre propre identité. Une autre peur à laquelle j'ai pensé, je pense que ça, c'est vrai particulièrement pour les plus jeunes générations. Peut-être qu'on a peur aussi de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas être à la hauteur de cette union, cette relation dans laquelle je vais m'investir, où je vais aimer quelqu'un et être là pour lui, pour elle. Alors peut-être que c'est ça, peut-être que j'ai peur de perdre ma liberté, peut-être que j'ai peur de me perdre dans cette relation-là, de perdre ma propre identité, ma propre personnalité, peut-être que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais une chose qui est claire, lorsqu'on regarde la société actuelle, les gens ont peur de s'unir. Les gens ont peur de s'engager. Les gens ont peur de renoncer à quelque chose pour s'investir dans cette relation-là, dans cette union. Et c'est de plus en plus évident dans la société. Maintenant, si c'était en renonçant un peu à nous-mêmes et en s'engageant qu'on grandissait, qu'on avançait dans la vie. Si c'était en faisant ce geste-là de générosité, où oui, je vais renoncer un peu à moi-même pour être là pour quelqu'un d'autre, pour me donner pour cette personne-là, si c'était ça qui faisait de nous des gens meilleurs. On vit dans une société hyper individualiste où le sens du communautaire, du commun, du partage, c'est fragile, c'est délicat. Mais si c'était justement ça, le fait de m'engager, de renoncer un peu à moi-même, de m'engager dans une relation, dans une union où je vais me donner, je vais être là pour l'autre, si c'était ça qui nous faisait grandir. Moi, c'est ça mon expérience. Ça fait plus de 20 ans que je suis marié avec Esther. Et chaque jour, notre union demande que l'un et l'autre, on renonce un peu à nous-mêmes. Des fois, beaucoup même. Pour être là pour l'autre, pour être là pour nous. Pour être là pour la famille. Mais je peux témoigner, les gens qui me connaissent, que ceci a fait de moi un homme meilleur. Ceci a fait de moi une meilleure personne. Et commencer ma journée en disant, je vais être là pour mon épouse aujourd'hui, je vais être là pour mon couple, je vais être là pour elle, je vais être là pour me donner pour elle. Fais pas de moi quelqu'un qui est disparu, mais fais de moi quelqu'un de meilleur. C'est drôle, dans les dernières semaines, j'écoutais tout le monde en parle, puis ça m'a frappé parce que je voyais des illustrations dans des vies de gens qu'on connaît bien, des personnages publics, où tu voyais bien que ça les enrichissait. Il y a deux couples dans les dernières semaines qui sont passés à Tout le monde en parle. Véronique Cloutier, puis l'autre gars qui est avec, là. Comment il s'appelle, non? Louis Morissette. Louis Cloutier, c'est ça. Mais c'est vraiment une belle illustration parce que tu l'écoutais parler, tu écoutais Louis Morissette parler, puis tu voyais que ça faisait de lui une meilleure personne. Tu voyais que ça l'amenait à se dépasser lui-même, à se donner, à être généreux. Et dans cette situation-là, c'est définitivement une situation où tu pourrais dire, il y a peut-être quelqu'un qui va disparaître, tu sais, puis que tu remarqueras comme jamais parce qu'il est avec Véronique Cloutier. Il y a un autre couple aussi dernièrement qui a passé, c'est Marie-Lou puis Alexandre Champagne, qui sont ensemble. Puis tu voyais à quel point cette relation-là, le partage qu'ils ont ensemble, les enrichit, leur donne une profondeur. Je regardais ça, puis je trouvais ça beau. Alors, je ne sais pas pourquoi on a peur comme ça, d'oser renoncer un peu à nous-mêmes et s'engager dans une union. Parce que je pense que tout indique qu'on a été créé pour ça, on a été fait pour ça. Pas juste la biologie, mais relationnellement, on a besoin. La majorité d'entre nous aspirons profondément à nous unir dans une relation où on va se donner, qui va nous donner à nous-mêmes une profondeur, une richesse, qui va nous amener à nous dépasser nous-mêmes, à dépasser nos ambitions personnelles, à être là pour moi-même, mais être là pour l'autre aussi. Et ça, c'est mon expérience à moi, ça m'enrichit énormément. C'est vrai dans ma relation avec nos deux ados, d'être là pour eux, de me donner pour eux. C'est là dans mes bonnes amitiés. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Et je pense que le parallèle tient la route. Je crois que dans ce domaine-là aussi, bien souvent, alors qu'on commence à entendre à quelque part la voix de Dieu, parce que des gens nous parlent de Dieu, on vit des expériences dans la vie, on vit des questionnements, on vit des remises en question, on commence à lire des trucs, on tombe sur des messages qui nous parlent de ce Dieu-là qui nous attend, et on a cette crainte de s'engager. Certains d'entre vous, vous avez été élevés dans un foyer chrétien, vous connaissez l'amour de Dieu, vous avez entendu parler de l'amour de Dieu, vous savez ces choses-là. Mais de là à venir, puis me faire baptiser au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, crier à tout le monde mon union avec Christ, wow, c'est engageant cette affaire-là. Est-ce que je vais me perdre là-dedans? Ou est-ce que ça va t'enrichir? Est-ce que ça va donner une nouvelle profondeur à ta personne? Une nouvelle richesse à ta personne? Voyez-vous, cette comparaison-là tient la route dans le domaine spirituel aussi. Cette comparaison-là tient la route parce que Dieu désire cette union avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous. Dieu est là, c'est ce que la Bible nous enseigne. Dieu est là, même s'il est invisible, même si c'est comme plus flou, tu n'auras peut-être pas de cappuccino avec lui, tu n'iras pas prendre un bon verre avec lui, puis faire un gros colleux avec Dieu. Oui, c'est un esprit, c'est vrai, mais il est là. Il est bien réel. Des centaines de personnes dans cette salle peuvent attester dans leur expérience personnelle que Dieu est là et qu'il est là selon les Écritures et qu'il désire cette union avec nous. Il désire cette relation personnelle avec nous. Il veut entrer dans cette communion avec nous. S'approcher de nous. Dieu veut s'engager dans une relation intime et riche avec chacun d'entre nous. Maintenant, ce que ça me demande à moi, c'est de faire un pas de foi pour m'engager dans cette relation-là. Parce que Dieu ne la forcera pas, cette relation-là. Dieu ne va pas forcer cette relation. Une des choses, je pense, qui nous retient souvent de s'engager en amour, pour de vrai, dans une relation durable, d'oser me marier avec quelqu'un pour toute la vie. C'est la crainte aussi que l'autre personne ne soit pas vraiment là pour la relation. C'est la crainte que l'autre personne ne soit pas là pour s'investir, puis que je sois toujours celui qui est en train de se donner constamment, jour après jour. Et on a entendu des témoignages qui qui ressemblait à ça tout à l'heure, et des histoires tristes lorsqu'on va dans l'intimité de ces histoires-là. Et donc ça peut nous retenir aussi, parce qu'on se dit, oui, mais je vais être seul peut-être à m'investir là-dedans. Est-ce que l'autre va être là? Et voyez-vous ce qu'il y a de particulier avec Jésus-Christ? C'est que Jésus-Christ s'est déjà investi à fond dans cette relation, dans cette union possible avec vous. V'là 2000 ans, Jésus-Christ a déjà tout donné pour préparer cette union future avec vous. V'là 2000 ans, il est venu sur cette terre, il est mort sur cette croix, je vais y venir dans quelques minutes, mais en faisant cela, il a rendu possible cette union. Et jamais, jamais dans mon union avec Dieu, avec Jésus-Christ, j'ai à craindre de me retrouver avec un partenaire qui va dire, « Ouais, mais regarde, mettons 50% sur la table, puis moi je vais m'investir. » Jamais. 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 Je vais le dire comme ça. Jésus a tout fait pour qu'un jour tu dises, « Oui, je le veux. Oui, je le veux. » Il a tout fait pour rendre ça possible. Je le dis souvent à l'Église ici, « Et il ne t'a pas choisi pour tes beaux yeux. » Il ne t'a pas choisi parce qu'il te trouvait cute. Vous savez, lorsqu'on assiste à une noce, puis il y a le moment où la fiancée va entrer, puis tout le monde est assis, puis j'ai célébré plein de mariages, puis moi j'ai le privilège, hein, souvent le futur époux est juste là à côté de moi, puis il y a l'allée qui est là, puis tout le monde est assis, et puis il y a le cortège qui rentre, personne après personne, et puis les gens sont assis, et la mariée apparaît au bout, et puis je fais signe à l'assistance de se lever pour saluer la mariée qui est là, puis j'ai l'époux qui est là. Puis Esther, mon épouse, me rappelle à chaque fois. Elle me dit, Yannick, tu regarderas, tu regardes, t'as-tu vu? Après, elle m'en reparle, tu l'as-tu vu? Parce qu'à chaque fois, je vous dis, 9 fois sur 10, le gars est là, puis la voit apparaître, puis est tellement belle et magnifique. C'est sa future épouse qui s'en vient là. Elle est superbe dans sa robe, tout ça, puis le gars se met à brailler comme une madeleine. 9 fois sur 10. Le gars, il se peut plus. Parce qu'il voit sa fiancée qui est là, qui est tellement belle, qui s'en vient se donner à lui pour bâtir cette union-là ensemble. S'unir ensemble pour fonder ce couple-là. Mais quand vous descendez l'allée pour venir à Jésus, Jésus ne vous voit pas exactement de la même manière. Pas juste parce que vous êtes des gars, là. Pas de tutu, c'est pas ça que je veux dire. Voyez-vous, les Écritures nous disent que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et lorsque Jésus te regarde descendre l'allée pour venir vers lui, lui, ce qu'il voit, c'est tout ce que tu es dans toute ta personne, dans tout ton être. Il n'y a pas le fla-fla du jour des noces avec la belle robe, le beau make-up, parce qu'il y a toute ton histoire qui s'en vient vers lui. Avec tes bons coups, avec tes qualités, tes talents, qui sont géniales. Mais aussi avec tes mauvais coups, avec tes côtés sombres dans ton histoire. Les aspects de ta vie qui te font honte parce que c'était pas génial. C'était égoïste, c'était hypocrite, c'était mensonger, c'était tellement centré sur toi-même, où t'as été dur, où t'as méprisé quelqu'un. Tout ça, toute ton histoire, lui, il la voit dans un seul flash, puis il te regarde, puis il dit... Je veux t'épouser. Avec tes mauvais coups, avec les choses qui te font honte ou qui devraient te faire honte. Parce que vous savez, la conscience, c'est quelque chose d'élastique. Hein? Il y a des choses dont on avait honte, puis avec le temps, on a de moins en moins honte, puis on se raconte une nouvelle histoire, on réinterprète notre histoire, puis finalement, en bout de ligne, finalement, on n'est pas si pire. Depuis un an et demi, on assiste à la commission Charbonneau, puis on voit... Ce n'est pas tous des voyous, mais on voit une méchante gang de voyous qui passent là. Puis tu te rends compte que la conscience est drôlement élastique. Vous savez, les gars sont là, ils répondent aux questions, ils regardent le juge avec une belle gueule angélique. Puis ils sont en train de te dire qu'ils ont volé une couple de millions, mais finalement, c'est peut-être juste comme tomber là. Puis écoute, ils en ont remis une partie en allant jouer au casino. Ils l'ont remis à la société. Finalement, ils ont même contribué. Ah, mais vous comprenez, ça aurait pu aller dans des bâtiments, puis pff, ça va aller au casino. La conscience est élastique. Mais la conscience de Dieu n'est pas élastique. Dieu vit hors du temps et toutes nos conneries, excusez-moi, toutes nos dégueulasseries qu'on voudrait juste effacer, puis on voudrait se présenter le jour des noces comme il y a un temps où l'épouse venait puis était vierge, pure de tout. Puis Dieu dit, « Oh, mais t'es pas comme ça. Mais je veux t'épouser. Je veux te prendre, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, puis quand tu vas descendre l'allée, je veux pleurer en te regardant venir. De joie de te voir entrer dans cette union-là. » Mais voilà, Dieu nous voit avec notre histoire. La Bible appelle ça nos péchés. Tous ces moments où on a rejeté Dieu, ces moments où on a fait du mal à des gens, ces moments où on a été égoïste, où on a été mensonger, hypocrite, où on a été cheap, poche. Dieu appelle ça les péchés. Dans Romains, l'apôtre Paul dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout le monde est pécheur. Alors lorsque je descends à l'allée puis que je m'en viens rencontrer Jésus, lui, ce qu'il voit, au-delà des apparences, ce qu'il voit, c'est un pécheur qui s'en vient vers lui. Comment est-ce qu'il va faire pour l'aimer? Parce que s'il est Dieu, comme la Bible nous dit qu'il est Dieu, ben, je veux dire, vous tapez vraiment un bon deal quand vous vous mariez avec lui. Lui, il n'y a pas grand-chose dans son histoire qui est sombre, noir, affreux. C'est Dieu. Et justement, les Écritures nous disent, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et donc, c'est ça que Jésus-Christ est venu accomplir lorsqu'il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Ce personnage, Jésus de Nazareth, qui a vécu, tous les historiens parlent de lui. La Bible nous dit qu'il est venu dans un but précis. Au-delà des enseignements, au-delà des paroles de sagesse qu'il a apportées, des principes de vie qu'il a apportés, au-delà du modèle de vie qu'il a apporté, il venait sur la terre, il naissait sur la terre pour se rendre à un endroit précis, à la croix. Il se rendait à cette croix pour mourir sur cette croix. Et par cette mort sur la croix, il s'offrait en sacrifice pour les péchés des hommes, pour nos péchés. Jésus était en train de préparer une noce à laquelle tu allais être invité pour entrer dans une union avec lui. Et pour s'assurer que tu sois cette fiancée superbe qui s'en vient s'unir avec lui, lui-même a pourvu à tout le nécessaire pour que tu retrouves cette pureté, cette virginité spirituelle, où tu vas être pur devant Dieu malgré ton histoire. Et il l'a fait en mourant sur cette croix. Lorsque les gens viennent se faire baptiser, dans quelques minutes, ils vont être immergés, ils vont être plongés dans l'eau, puis ensuite, ils vont ressortir de l'eau. Le baptême a deux symboliques principales. Un, c'est la purification. Dans les Écritures, on voit souvent cette idée qu'on est purifié par Christ et l'image de l'eau qui nous lave, qui nous purifie, c'est là, c'est présent. Mais l'image beaucoup plus forte et beaucoup plus présente, c'est cette identification avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, alors qu'il veut rappeler aux chrétiens ce qu'ils ont vécu en se faisant baptiser, leur dit ceci, je vais vous lire ça, c'est dans Romains 6. On peut l'afficher à l'avant, s'il vous plaît. Romains 6, 3 et 4. Paul est en train de parler à des chrétiens qui ont vécu déjà l'expérience du baptême. Il veut leur rappeler ce que leur baptême représente dans leur union à Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors, les Saintes Écritures nous disent que Jésus était pas seulement un homme comme tous les hommes, c'était un homme à part, c'était Dieu le Fils qui est venu vivre sur la terre une vie unique, qui a fait des choses qui sont uniques, et la principale est celle de s'être offert sur cette croix pour mourir, être mis en terre, et ressuscité le troisième jour. Et ceux qui témoignent, comme on l'a entendu ce matin, et qui passent par les eaux du baptême, rendent témoignage que cet acte-là, qui s'est passé il y a 2000 ans, a eu un impact bien réel, bien concret dans leur âme et dans leur vie. Et lorsqu'on est plongé dans les eaux du baptême, on s'identifie avec la mort de Jésus-Christ. Et lorsqu'on sort de l'eau, on s'identifie avec sa résurrection, cette vie nouvelle dans laquelle on entre, dont on va parler la semaine prochaine. Mais à quoi on pense lorsqu'on parle de notre union, de notre identification avec la mort de Christ? Qu'est-ce que ça veut dire pour un chrétien de s'identifier avec la mort de Christ? Mais premièrement, comme je l'ai expliqué, c'est cette idée que Christ a tout fait en mourant sur cette croix. Jésus a pourvu à tout ce qui était nécessaire pour que moi je sois purifié, lavé de mes péchés. Et que je puisse entrer dans cette union avec Dieu pure de mon histoire, de mes péchés, de mes fautes. Et donc Jésus-Christ a pourvu pour moi. Et donc il y a cette image, lorsque je suis plongé dans l'eau, de cet abandon. Dans un sens, c'est vrai. Je m'abandonne moi-même entre les mains de Christ parce que lui a pourvu à ce qui était nécessaire. Et donc, il y a un renoncement qui est là. Un renoncement, premièrement, à me dire, écoute, c'est à la force de mes qualités à moi, de mes compétences à moi, de mes bons coups à moi que ça va marcher entre toi puis moi. Tu vas voir, j'apporte quelque chose dans cette union-là avec toi, Dieu. Ça va être vraiment fort. Voyez-vous, la foi en Jésus-Christ me libère de ce poids-là, de ce fardeau. Si vous avez déjà lu la Bible un petit peu, vous avez vu dans les Écritures que Dieu parle de sa sainteté. Puis lorsque Dieu parle de sa sainteté, plus tu découvres la sainteté de Dieu, plus tu te dis, « Ouais, mais je suis tellement pas comme ça, tu sais. Dieu est pas égoïste, Dieu est pas poche, Dieu est pas mesquin, Dieu est pas en train de se venger sur les gens, Dieu partage, Dieu donne, mais je suis tellement, tellement pas comme lui. » Et plus tu lis les Écritures, plus tu découvres cette sainteté de Dieu, puis tu te dis, oui, mais qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre lui et moi? Tout ce qui pourrait me rester, c'est un Dieu que j'imaginerais, un Dieu bonbon, un grand papa gâteau qui dit, regarde, tu peux faire n'importe quelle connerie, zigouille du monde, profite du monde, abuse des gens, je vais t'en donner des nananes. Mais quand tu lis les Écritures, tu découvres que Dieu est non seulement parfaitement amour, il est parfaitement juste, il est parfaitement droit, il est parfaitement saint. Tu lis les Écritures, puis si on s'en tenait juste à ça, tu dirais, mais il n'y a rien de commun entre Dieu et moi parce que je ne suis pas comme ça. Mais lorsque je place ma foi en Jésus-Christ, je place ma foi dans son sacrifice sur la croix pour mes péchés, et à ce moment-là, lorsque je passe par les eaux du baptême, j'abandonne, je renonce à pourvoir moi-même par mes propres efforts à tout ce qui est nécessaire pour notre union ensemble. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y mettre du mien, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des efforts dans ma marche chrétienne, je vais en faire plein, je veux lui plaire, je veux marcher dans ses voies, mais je sais que le fondement, la base de notre union, ce n'est pas que Jésus-Christ s'est assis devant un notaire et a dit, « OK, combien t'amènes là-dedans, man? Qu'est-ce que t'amènes dans cette union-là? » C'est mieux d'être sur la coche, parce que quand tu vas faire ça, je pense qu'on va considérer le divorce. Puis si tu manques, je pense que je vais peut-être te quitter. C'est pas ça que vous avez entendu dans les témoignages tantôt. N'est-ce pas? Au contraire, c'est une confiance, une paix, de savoir que je peux m'abandonner parce que c'est son sacrifice qui a pourvu. Et donc, dans cette union, dans cette mort avec Christ, je renonce à prendre sur mes épaules tout le fardeau de réussir cette union-là, parce que c'est lui qui a pourvu. Et chaque fois que je vais manquer dans mon union avec Christ, je sais que je peux invoquer son sacrifice. Et dire, Seigneur, c'est pas par mes propres forces, c'est par ton sacrifice que je marche dans tes voies. Pardonne-moi mes péchés. Je reste pécheur encore. Toi, t'es saint et toi, t'as pourvu au pardon. Il y a un autre élément qui est là, qui est super important. C'est sorti un petit peu dans les témoignages tout à l'heure. La semaine prochaine, je vais parler de cette vie nouvelle qui commence lorsque je place ma foi en Jésus-Christ. Érica a cité un super beau verset dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ et est baptisé en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Devenir chrétien, placer sa foi en Jésus-Christ, c'est mourir, c'est vrai, c'est renoncer, renoncer à construire toute ma vie par moi-même, c'est renoncer à vivre sans Dieu pour me donner à Dieu, pour marcher avec lui, c'est renoncer à être celui qui va porter toute la responsabilité de cette union. Mais c'est renoncer à tout cela pour renaître libre de mon histoire passée. Et lorsque je place ma foi en Jésus-Christ, tout ce qui dans mon passé faisait partie des histoires qui me font honte, des histoires qui sont lourdes à porter, des histoires qui, lorsque je me regarde dans le miroir, je les vois toujours apparaître, comme si elles me définissaient constamment. Au moment où je place ma foi en Jésus-Christ, au moment où je suis uni avec Jésus-Christ, Christ me regarde et dit, « Tu sais quoi? Je t'ai lavé entièrement. Et pour moi, tu es parfait. Tu es purifié de tout ce qui pouvait te faire honte. » Voici, je te donne une nouvelle identité, une vie nouvelle commence. Plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà fait baptiser il y a bien des années, et lorsqu'on assiste à des baptêmes comme ça, c'est un moment précieux pour nous. Parce qu'on a besoin de se rappeler cela. Dans notre vie chrétienne, il nous arrive d'oublier que Christ a pourvu à tout, qu'on a été pardonné pour nos péchés, qu'on a été purifié, que je suis mort au péché, c'est l'expression que Paul utilise. Je suis mort au péché lorsque j'ai été enseveli avec Christ. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. J'entre dans une nouvelle vie. Et certains d'entre vous, ce matin, c'est ça que vous avez besoin d'entendre à travers ces témoignages parce que vous avez oublié cela. Quand vous vous levez le matin, ce que vous voyez, c'est ce vieil homme qui vivait sans Dieu, qui était coupable de tant de péchés. Mais ce vieil homme-là a été enseveli avec Christ. Il est mort avec Jésus-Christ. Et vous avez été purifié de ces fautes-là. Vous entrez dans une vie nouvelle. Une nouvelle identité vous a été donnée. Et c'est ça que vous avez besoin de vous rappeler. D'autres, vous êtes là et puis vous regardez l'engagement puis vous dites, oui, mais est-ce que je vais me perdre dans tout ça? Est-ce que je vais disparaître là-dedans? Certains d'entre vous, peut-être même vous êtes de la famille puis vous regardez ces nouvelles professions de foi puis vous dites... Il y a tellement d'histoires d'horreur où des gens embarquent et à cause de la foi deviennent comme des espèces d'automates qui se font embarquer dans toutes sortes d'affaires. À part ma barbe, j'ai-tu l'air d'un gourou un matin? Est-ce que j'ai l'air d'un espèce d'automate qui n'a pas de personnalité, qui n'est pas capable de penser par lui-même? Alors peut-être que vous avez peur de vous engager envers Dieu parce que vous avez peur de vous perdre dans ça. Et vous dites, oui, mais je vais renoncer à tant de choses. Je peux vous assurer, après 20-quelques années de vie chrétienne, il n'y a absolument rien auquel tu vas renoncer, pour lequel tu ne recevras pas au centuple dans cette relation-là. Ça va faire de toi une personne meilleure. Ça va faire de toi une personne aimante. Ça va faire de toi une personnalité qui va s'épanouir en Jésus-Christ. Tu vas trouver une liberté qui va te libérer de l'esclavage du péché. Et tu vas devenir une personne nouvelle. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je vais inviter les baptisés à venir se préparer. J'aimerais ça terminer avec un mot de prière, d'accord? Seigneur Jésus, je veux te remercier. Je veux te remercier pour... Erika, pour Célestine, te remercier, pour Ginger, te remercier, pour Joël, Seigneur. Je veux te remercier pour ce que tu as fait en entrant dans leur vie. Je veux te remercier pour leur cheminement. Je veux te remercier pour cette union qu'ils vivent avec toi et qu'on célèbre ensemble ce matin en assistant à leur baptême, Seigneur. Je te prie, Père, de marquer dans leur mémoire ces moments-là. Qu'ils soient marqués d'une manière indélébile, Seigneur, pour qu'ils se rappellent du jour où publiquement ils ont célébré le fait que leur union avec toi repose sur ce que toi tu as fait à la croix pour eux, Seigneur. Et que c'est par un simple acte de foi, un pas de foi qu'ils s'engagent dans cette union, Seigneur, pour entrer dans une nouvelle vie. Mourir à eux-mêmes, c'est vrai, mais pour renaître dans une nouvelle vie, une nouvelle créature libre, enrichis de toi dans leur vie, Seigneur. Et puisses-tu ce matin, dans ta grâce, en convaincre plusieurs d'entrer dans cette relation avec toi, d'ouvrir leur cœur à ton appel, Seigneur, de faire un pas de foi pour dire, « Je veux te connaître, Dieu. Fais-moi connaître ton histoire, Jésus-Christ. Révèle-toi à moi. » C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.